France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'émission de François Serrette intitulée « Musiciens français témoins de leur temps » qui accueillait en août 1970 Henri Dutilleux. Nous sommes dans l'île Saint-Louis, à Paris, au domicile du compositeur, quelques semaines après la création de son concerto pour violoncelle, Tout un monde lointain. Henri Dutilleux, en pleine force de l'âge, évoque son parcours, sa manière de composer et le regard qu'il porte sur ses œuvres.
Thank you. Nous venons d'entendre un extrait de la sonate pour piano d'Henri Dutilleux qu'interprétait Geneviève Joie. Merci Henri Dutilleux de nous recevoir chez vous.
Alors, cette œuvre, cette sonate pour piano, a été écrite pour Geneviève Joie. Elle lui a été dédiée, Geneviève Joie est ma femme. J'ai souvent évité de parler d'elle, mais je dois dire que c'est une musicienne d'un très grand talent et que de grands musiciens appréciaient beaucoup. Je me souviens que Honegger disait d'elle que c'était la meilleure lectrice. C'est à l'époque où, je crois, elle était attachée au comité de lecture de la radio. Elle déchiffrait des partitions nouvelles. Il fallait donner l'impression au piano de ce que pouvait être l'orchestre. Alors pour cette œuvre, je dois dire qu'elle l'a assimilée avec une rapidité absolument déconcertante et c'est tout. Et je travaille sans jamais lui montrer l'œuvre avant qu'elle ne soit achevée. Alors après, bien entendu, avant qu'elle ne soit éditée, elle me fait part de ses observations, enfin, comme d'autres, et comme des amis, et elle en tient compte, ça, à ce moment-là. Mais pas en cours d'élaboration de l'œuvre, ça. C'est une manière de travailler qui m'est particulière et je ne sais pas du tout comment font les autres. Je ne sais pas comment fait Olivier Messiaen avec sa magnifique Yvonne Loriot. Je n'en sais rien et ça le concerne.
Dans votre enfance, je sais que vous avez vécu dans un climat de musique.
Mon père était musicien amateur, il était imprimeur. Et parfois, après ses journées de travail, il lui arrivait de faire de la musique avec des amis. De la musique de chambre, enfin, comme on le faisait encore beaucoup à cette époque-là, c'est une chose qui se perd. C'est là que j'ai entendu beaucoup de quatuors classiques et des contemporains, enfin, jusqu'à celui de Debussy, mais on n'allait pas beaucoup plus loin. Enfin, non,
c'était déjà pas mal, celui de Debussy. Ensuite, vous avez fait des études, je crois, au Conservatoire de Paris. Vous avez, bon, nous l'évoquons rapidement, il y a eu le prix de Rome, il y a eu la Villa Médicis.
Je suis arrivé à la Villa Médicis en février 1939. Et vous savez ce qui se passait à ce moment-là en Italie, dans cette Italie fasciste. Et il n'y a pas de doute que le climat était extrêmement tendu. Et moi-même, je n'éprouvais qu'une envie, c'est de revenir assez souvent en France, quel que soit mon amour pour l'Italie et pour une ville comme Florence, où je me trouvais. Florence était très différente d'esprit, n'est-ce pas, à ce moment-là. Rome, nous étions près de l'administration. Alors je suis très vite revenu en France et au mois de juin, je n'y suis pas retourné. À Rome. Ensuite, j'ai été mobilisé et voilà. Et là, j'ai eu la chance de ne pas être prisonnier. Il s'en est fallu de très peu. Ensuite, c'est une période de labeur, mais aussi de méditation. Il se trouve que là, me trouvant à Paris, je devais surtout songer à m'évader de tout ce que j'avais pu faire jusque-là, n'est-ce pas ? C'était la période scolaire, en somme, que je quittais. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai voulu connaître beaucoup de choses nouvelles. Maintenant, comme cette période a coïncidé avec l'arrêt de toute activité artistique, j'insiste, c'est une période surtout de méditation. Ce n'est qu'à la libération, en 1944, vraiment, que là, il y a eu un tel jaillissement de musique. Cette musique qui nous arrivait de tous les coins du monde, grâce à des musiciens comme Rosenthal, comme Desormières, qui étaient à la tête de l'Orchestre National. Cette musique nous arrivait de partout et nous avions un énorme besoin de musique nouvelle.
C'est ça.
Il faut penser à toute la musique qui avait pu être interdite, ne serait-ce que celle-là. Bien sûr. Alors on en vient immédiatement à des noms comme ceux de Schoenberg. Mio avait été interdit, bien entendu.
Bien entendu.
Tant d'autres. Enfin,
bien
d'autres,
sûr. Et c'est à peu près quelques années après la guerre que vous écrivez votre sonate pour piano dont nous venons d'entendre un extrait.
Oui, je l'ai écrite entre 46 et 47, 48. C'est à ce moment-là que je l'ai écrite. Alors, pour moi, c'était une phase nouvelle de mon évolution. C'était un stade de nouveau. Et je crois, effectivement, que c'est à partir de cette sonate que j'ai commencé à me trouver un peu. Mon évolution était assez lente, en tout cas très progressive, n'est-ce pas ? C'est la période de la Renaissance en Europe et dans le monde de la musique sérielle.
Mais Henri Dutilleux, au travers de vos œuvres, vous ne semblez pas du tout dérangé ou préoccupé par ce qu'on a appelé l'école de Vienne, par le dodécaphonisme ou par cet esprit de chapelle. Vous y échappez toujours.
J'ai peut-être la réputation de ne pas avoir été troublé par ces différents mouvements, mais je m'y suis beaucoup intéressé. La musique sérielle est un événement de notre époque, et cette renaissance de la musique sérielle est un événement considérable. C'est tout de même ce qui a le plus marqué l'après-guerre, avant la découverte de musique électronique, les recherches de musique concrète ou électronique.
Bien sûr.
C'est une chose qui, même pour un musicien dont la sensibilité peut-être ne s'accorde pas avec ces techniques, c'est une chose qu'on ne peut pas ignorer. J'ai eu des élèves, j'en ai encore, je leur ai toujours fait connaître aussi complètement que possible ces techniques, la manière de s'en servir, n'est-ce pas? Indépendamment du fait que Schoenberg a voulu vraiment faire la preuve par neuf de la musique atonale. Bon, indépendamment de cela, il y a tout de même quelque chose d'extrêmement important sur le plan de la composition, l'organisation du discours musical. C'est cela, indépendamment du fait qu'on prouve vraiment que l'on n'est dans aucune tonalité. Et ça, Schoenberg a voulu le prouver pour éviter une sorte d'anarchie. On sait qu'il passait de nombreuses heures avant de choisir un accord. Il était donc extrêmement conscient de cela. Donc, personne ne peut rester étranger à cela. Et moi-même, je me suis servi de certains éléments, encore tout récemment, et même dans d'autres œuvres, des œuvres antérieures, à commencer par ma première symphonie, et aussi dans mes métaboles, il y a toute une partie qui répond à certains impératifs d'ordre sériel, mais pas le sérialisme intégral. Plus personne, je crois, oui, ne le pratique entièrement.
Ce que je voulais dire, d'ailleurs, quand je vous posais cette question tout à l'heure, c'est que vous ne sembliez pas du tout aliéné par, oui, ce système, vous comprenez?
Oui, oui.
Mais qu'il vous est occupé ou préoccupé, je le pense bien. Dans la deuxième symphonie, par exemple, dans le double.
Oh, là, je ne crois pas qu'il y ait des traces très évidentes. Sauf dans un certain esprit d'organisation musicale. Voilà, c'est sur le plan de la forme. On peut peut-être trouver certains éléments qui s'apparentent à la technique elle-même. Ceci pour la musique sérielle dont on a tant parlé pendant un certain temps, dont on parle beaucoup moins maintenant d'ailleurs, parce que maintenant on est loin de cela, c'est digéré, etc. Maintenant on en est à l'aléatorisme, enfin à tout ce que l'on peut imaginer dans, oui, ce domaine-là. C'est d'ailleurs extrêmement curieux de penser qu'on partait d'un excès, d'une extrême rigueur pour arriver maintenant à une liberté presque anarchique. Enfin.
Bien entendu. Voulez-vous qu'on fasse une interruption et qu'on écoute un extrait de votre seconde symphonie, le double?
Très bien, alors le premier mouvement.
D'accord. Si vous êtes... Et c'est l'orchestre Lamoureux que dirige Charles Munch. Thank you. Henri Dutilleux, nous venons d'entendre un extrait de votre seconde symphonie que dirigeait Charles Munch à la tête de l'Orchestre Lamoureux. Mais nous avons omis de parler de la première symphonie.
Oui, la première qui date de 1950 et qui a été créée en 1951 par l'Orchestre National sous la direction de Roger Desormières, qui s'y est beaucoup intéressé. Elle a été ensuite reprise au Festival d'Aix-en-Provence en 1952 sous la direction de Jean Martinon. Ça, c'était les débuts, n'est-ce pas? C'est en somme à la suite de cette période dont je vous parlais tout à l'heure, cette période d'intense jaillissement de musique. Et alors, je crois tout de même ne pas pouvoir renier cette première œuvre symphonique importante, cette première symphonie. Il n'y a pas de doute que l'on y trouve des traces de certaines influences. Mais enfin, je pense que l'on sent aussi tout de même ce qui allait être...
Oui,
ce qui allait caractériser ensuite ma musique.
Bien. Et je suis ravi que vous évoquiez Roger Desormières, parce que je crois qu'il a énormément servi la musique et des jeunes compositeurs comme vous, justement, à ce moment-là.
Je pense bien. Et des compositeurs un peu moins jeunes. Enfin, il a été l'un des interprètes de Messiaen.
C'est vrai.
Il n'y a pas de grande différence de génération entre des musiciens comme Messiaen et des musiciens de ma génération, mais tout de même...
C'est vrai qu'il a créé la Nature en Galilée.
Nature en Galilée, justement, oui, à Aix-en-Provence. Elle avait été créée à Boston. Oui. Elle avait été créée à Boston puisque c'était une commande, oui, de la Fondation Koussevitzky. Ma seconde symphonie était, oui, aussi une commande de la Fondation Koussevitzky et c'est Charles Munch qui l'a
dirigée là-bas. Mais nous ne parlons pas d'une période qui est la période du ballet et dont le résultat fut un admirable ballet qui était Le Loup.
Eh bien, nous suivons finalement assez bien un ordre chronologique. En effet, c'est en 1953 que Roland Petit cherchait une musique pour un argument qui était de Jean Anouilh et de Georges Neveu. Un très court argument d'ailleurs, une histoire... transposé dans une époque qui peut être une époque médiévale, une sorte de légende allemande, mais en somme, c'est l'histoire de La Belle et la Bête. J'ai écrit cette musique. À ce moment-là, j'avais d'autres projets et je me suis arrêté pour écrire cette musique en l'espace de quelques mois. Enfin, je crois que j'ai tout fait, orchestration et musique, en 3 mois. Et l'ouvrage a été monté avec les décors de Carzou.
Oui.
Décors que j'aimais infiniment, au début de l'année 1953. C'est un ballet qui, comme la plupart des œuvres où les auteurs ont pu se rencontrer, a une certaine unité. Enfin, c'est peut-être la qualité de ce ballet, c'est que vraiment, on sent une union entre les différents éléments,
oui,
décors, musique, chorégraphie, costume, etc. Et argument,
même.
Bien sûr. Argument qui nous a guidés. Ceci dit, je n'ai jamais voulu faire jouer la musique au concert. Il me semble qu'elle est absolument inséparable de l'action scénique. Mmh. Et je ne suis pas tellement heureux quand le disque passe. J'espère que l'on pense au ballet lui-même. Je ne me refuse à faire jouer cette suite au concert. C'est une chose qui a toujours été entendue. Mmh. Pour laquelle mon éditeur même était d'accord.
Henri Dutilleux, on dit de vous que vous êtes un musicien lucide et secret. Je ne poserai pas de questions sur le deuxième adjectif, cela ne nous regarde pas. Mais sur le premier, lucide, quel sens donnez-vous à la lucidité par rapport à votre musique ou par rapport à votre époque?
Lucide. Je je me demande, je n'attendais pas à cette question, je pense être assez conscient de ce que je fais, j'essaie de réaliser ce que je pense, je ne sais pas si je le réalise entièrement. J'admire beaucoup les musiciens qui arrivent à faire exactement ce dont ils rêvent même.
Mais vous savez, ça me fait penser à la phrase de Jouandeau, je me permets de vous la soumettre, dans un livre qui s'appelait De la grandeur, et il dit: quelle chance si à la fin de sa vie on ressemble de près ou de loin à ce qu'on a toujours voulu être. Et vous n'êtes pas à la fin de votre vie, bien loin de là. Mais c'est ça que j'appelle un peu la lucidité.
Oui, la lucidité, c'est peut-être, par exemple, avoir la vision complète de l'œuvre que l'on va écrire avant de la réaliser. C'est peut-être cela, une forme de lucidité. Certains musiciens ont cela, et j'ai entendu dire que Hindemith estimait que seuls étaient de grands musiciens ceux qui avaient la vision totale de leur œuvre avant. Oui, ça, c'est une chose, mais je dois dire que en cours de route, il y a bien des choses qui vous font, non pas bifurquer, mais enfin qui vous enrichissent en cours d'élaboration du travail. Je ne sais pas, Le Sacre du Printemps, par exemple, voilà une œuvre qui semble avoir été vraiment jaillie. Enfin, on ne connaît pas exactement quelles ont été les préoccupations de Stravinsky, enfin les préoccupations d'ordre chorégraphique d'ailleurs, très souvent. Et on a l'impression de se trouver devant un bloc, enfin, mais c'est fait, c'est devant nous. Et mais comment l'œuvre a-t-elle été faite? On pourrait en dire autant de beaucoup d'œuvres plus anciennes.
On pourrait en dire autant d'ailleurs de Métabole, vous savez.
Oui. Alors il y a la lucidité du musicien qui, après avoir fait une œuvre, constate que telle ou telle période peut être améliorée. Moi, ça m'arrive très souvent. Je me refuse absolument à décider qu'un enregistrement sera fait à l'occasion de telle première audition, presque conjointement à la première audition. Je veux toujours avoir la possibilité de me replonger dans cette œuvre et de la voir de très près pendant quelques mois. C'est pas ça, c'est à ce moment-là, je crois que je suis lucide. Oui, je vois, il me semble, en tout cas, et même si je me trompe, c'est en tout cas ce que je veux faire.
Je crois que c'est
les améliorations que j'y apporte sont au bénéfice, je crois, de l'œuvre telle qu'elle est destinée à être fixée.
Je crois que c'est cette lucidité-là dont je parlais, vous savez, Henri Dutilleux. Oui. Car en effet, quand une œuvre de vous arrive, on a le sentiment, alors là, je ne sais pas du tout, c'est le public qui parle peut-être, c'est l'auditeur, on a le sentiment que cette œuvre a été pensée, entièrement pensée. Il n'y a plus rien, si vous voulez, qui soit laissé au hasard. On attend une œuvre d'Henri Dutilleux, elle arrive et elle existe. C'est ça la lucidité, non?
C'est peut-être ça, oui, je ne sais pas. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez cité le titre Métabole, et c'est après ma seconde symphonie, dont nous avons également parlé longuement, c'est l'œuvre à laquelle je suis le plus attaché. Je veux dire que j'y suis peut-être plus attaché d'ailleurs qu'à ma seconde symphonie, malgré tous les souvenirs que cette œuvre peut évoquer pour moi. Les Métaboles, j'y songe actuellement, particulièrement ces jours-ci, étant donné que je viens d'apprendre la disparition de Georges Sell, tout de même très brutale, enfin en un mois, et que c'est Georges Sell qui m'a commandé cette œuvre pour son orchestre de Cleveland, cet admirable orchestre que nous avons pu entendre en France la dernière fois en 66. Oui. C'est au cours de ce concert, de l'un des deux concerts qu'il donnait au Théâtre des Champs-Élysées, qu'il a présenté en première audition en France, cette œuvre qu'il m'avait commandée, qu'il avait donnée quelques mois plus tôt à Cleveland. Et je dois dire que j'éprouve un très très grand, très profond chagrin en sachant que Georges Sell n'est plus là. C'était un très grand artiste, très lucide, alors lui, particulièrement lucide. Les disques que nous avons de lui sont vraiment transparents comme interprétation. Il avait une manière de fouiller la partition. Il avait une oreille, vous savez que c'est un très grand musicien, un pianiste admirable. Enfin, il voyait les choses de très près. Et je me souviens de la manière dont il a pu travailler cette œuvre à Cleveland, et même en mon absence. Enfin, moi, j'ai assisté aux toutes dernières répétitions en 1965, mais il avait fait, lui, un travail au cours de 5-6 répétitions, du travail de détail. Et alors, je me suis trouvé là, il m'est arrivé une chose tout à fait émouvante, c'est que il m'a joué l'œuvre que j'avais écrite, il m'a joué cette œuvre tout d'une traite, sans s'arrêter. Et je me suis trouvé brusquement devant une chose qui était de moi, comme une sorte de mur, enfin, comme une œuvre plastique, si vous voulez. Enfin, et je l'ai vu, en l'espace de 16 minutes, l'œuvre dure 16 minutes, j'ai assisté vraiment à l'audition de cette œuvre. C'est vraiment quelque chose de très spécial, très particulier. Nous avons l'habitude, le plus souvent, d'être auprès du chef d'orchestre quand l'œuvre sort du néant, quand il fait répéter tel ou tel passage, et alors on se dit, bon, bah, ça, il faut modifier telle ou telle nuance. Voilà. Là, c'était tout à fait autre chose, c'était prêt à être joué. C'est un souvenir pour moi extrêmement exaltant, si vous voulez. C'est une chose, j'en ai vu immédiatement aussi les défauts, je ne sais pas. Je veux dire que c'est une... Mais tout de même, c'est très exaltant de se trouver en face d'une œuvre à laquelle on a songé, à laquelle on a travaillé longtemps.
Eh bien, Henri Dutilleux, voulez-vous que nous écoutions vos 5 métaboles, et cette fois-ci peut-être sous la direction de Charles Munch?
Oui, c'est Charles Munch qui les a enregistrés à Paris, voici quelques années. 2 ou 3 ans avant sa disparition, et c'est un enregistrement auquel je suis très attaché. Il ne concevait pas l'œuvre exactement à la manière de Georges Selle, c'était autre chose, c'était son tempérament, et c'est ce que j'aime chez un interprète. C'est chaque fois, nous retrouvons quelque chose, et je crois que pour l'auteur, à chaque interprétation nouvelle, et souvent différente, suivant le tempérament du chef d'orchestre, je pense qu'il retrouve un peu de la fraîcheur de ses premières impressions.
Thank you. Thank you.
nous venons donc d'entendre les cinq métaboles d'Henri Dutilleux que dirigeait Charles Munch. Henri Dutilleux, il y a aussi un autre domaine. Vous êtes professeur de composition. Enfin, je ne sais pas du tout si vous aimerez ce terme. Enfin, vous l'êtes quand même. Et puis, nous nous trouvons en 1970. Comment peut-on enseigner, entre guillemets, la composition à des jeunes qui sont autour de vous? Comment ça se passe-t-il pour vous?
C'est un problème extrêmement difficile. Je fais des cours de composition à l'École normale de musique déjà depuis l'année 1961. Alfred Cortot, quelques années avant sa mort, m'avait demandé de prendre ce cours. Et je l'ai accepté, cette proposition, justement parce que on n'exigeait pas de moi des cours trop fréquents. Je désire absolument préserver pour mon travail personnel une grande partie de mon temps. Et finalement, cette expérience a été très utile pour moi parce que j'estime qu'il ne faut pas du tout perdre le contact avec les jeunes. Chaque année, j'y trouve vraiment, je crois, un certain enrichissement. Alors maintenant, j'ai accepté de faire des cours au conservatoire, des cours réguliers, et évidemment, le recrutement n'est pas du tout le même. N'est-ce pas ? À l'École normale de musique, nous avons des élèves de nationalités très différentes. Il n'y a pas de limite pour les élèves, il y a de nombreux étrangers. Il n'y a pas de limite d'âge non plus. Au conservatoire, c'est tout différent. Le recrutement est tout autre. Je vais me trouver devant des éléments fort intéressants et que je connais bien d'ailleurs parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de remplacer mon ami André Jolivet.
J'aimerais, Henri Dutilleux, qu'avant de se quitter, on évoque votre dernière partition, celle qui fut créée il y a quelque temps à Aix avec Rostropovitch.
Oui, cette partition a été suscitée en réalité par Igor Markevitch. Au moment où Igor Markevitch dirigeait les concerts Lamoureux, ça remonte à près de 8 ans, il a continué à diriger les concerts Lamoureux un peu plus longtemps, mais je veux dire qu'à cette époque-là, il m'avait fait venir au concert, à l'un des concerts qu'il dirigeait, pour me présenter à Rostropovitch, dans le but de susciter une œuvre pour violoncelle et orchestre. Et Rostropovitch connaissait un peu ma musique jusque-là, mais tout de même pas très bien. C'est vraiment grâce à Markevitch que j'étais amené à écrire cette œuvre. Mais il se trouve que cette œuvre devait faire l'objet d'une commande de la Fondation Lamoureux, et ensuite, moi, je n'ai pas pu immédiatement me mettre à l'ouvrage. J'avais d'autres travaux en chantier, justement les métaboles dont nous parlions tout à l'heure. Je devais d'abord me libérer de certains engagements et j'ai mis assez longtemps à le faire. Finalement, j'ai pu vraiment travailler à cette œuvre depuis 2 ans et demi, 3 ans. Mais alors là, je m'y suis vraiment passionné et je peux dire que depuis 2 ans, je n'ai fait que cela, avec une autre activité, l'enseignement bien entendu, mais je n'ai vraiment travaillé qu'à cette œuvre pour violoncelle et orchestre. Et ça a été pour moi une aventure très passionnante. Quand on a la chance de rencontrer un être comme Rostropovitch, qui est la musique même, enfin, qui est un génie véritablement, parce qu'il n'est pas seulement un prodigieux violoncelliste, c'est un chef d'orchestre que vous connaissez, enfin, qui vient de venir à Paris il n'y a pas si longtemps diriger le Bolshoï, qui est un pianiste admirable aussi, enfin, en tout cas, qui peut approfondir les œuvres qu'il joue. C'est une aventure qui n'arrive pas souvent. Alors pour moi, vraiment, j'ai vécu ces moments-là intensément. Bien sûr, il y a le violoncelle lui-même. Il y a Rostropovitch, mais il y a l'instrument. Et cet instrument est extrêmement troublant. Il est très mystérieux. Il est à la fois, il a ce lyrisme presque excessif qui fait que par réaction, on se sent vraiment à certains moments presque paralysé parce qu'on se dit, enfin, c'est très bien, mais enfin, cet instrument doit chanter, c'est entendu, mais c'est terrible, cette tension, ce lyrisme. Alors, il faut trouver, alors, dans les rapports entre l'orchestre et le violoncelle, il faut trouver là, justement, c'est là que la recherche a sa part.
Bien sûr. Vous ne nous avez pas parlé du titre de cette œuvre, Henri Dutilleux.
Oh, le titre est un titre à résonance littéraire, Tout un monde lointain, avec 3 points de suspension. Ceci tout simplement parce qu'il s'agit d'un vers emprunté à Baudelaire dans le poème La Chevelure. Je crois que le titre répond assez bien à l'esprit de l'œuvre, étant donné que quand je me suis mis vraiment à l'ouvrage avec ce concerto pour violoncelle et orchestre, je m'étais replongé complètement dans l'univers baudelairien en relisant non seulement ses poèmes, mais aussi ses poèmes en prose et tout ce qu'il a pu écrire dans tous les domaines. Baudelaire critique, Baudelaire évoquant tel ou tel événement du salon, il a fait régulièrement pendant un certain nombre d'années. Wagner, enfin, qu'il a si bien compris, Delacroix, etc. Enfin, c'est tout un monde, c'est vraiment tout un univers, et le titre, en tout cas, lui, est emprunté au poème La Chevelure. Mais il n'y a pas que cela, il y a évidemment les titres, les sous-titres, qui eux, sont de moi. Alors, ces titres qui illustrent chacune des cinq sections de l'œuvre sont d'abord Énigme, ensuite Vertige, qui constitue le premier mouvement lent. Il y a deux mouvements lents dans la partition. Ensuite, houle, au pluriel. Et le deuxième mouvement lent, dont le titre est Miroir. Et le cinquième, Hymne. Voici en ce qui concerne les titres. Alors, la référence à Baudelaire, et je le sais très bien, peut sembler gênante, en ce sens que on peut penser que j'ai voulu faire une œuvre à programme. Il ne s'agit pas de ça du tout. Pour moi, les quelques vers ou fragments de vers que j'ai isolés et qui se trouvent, en somme, sur le manuscrit, en regard de chacun des titres, c'est une formule qu'on a souvent adoptée avant moi, mais il ne s'agit nullement de vouloir illustrer Baudelaire. Ça serait une erreur. C'est un certain climat qui m'a été inspiré par la lecture de l'œuvre de Baudelaire. Il y a un poème qui est très beau et qui est archi connu, c'est La mort des amants. Et ce poème, lui, m'a beaucoup guidé pour le choix non seulement du climat, mais peut-être même de la forme de cette quatrième section, le deuxième mouvement lent. Je peux seulement citer quelques vers de ce poème, et c'est ceux d'ailleurs que j'ai isolés. Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Alors le mot miroir m'a immédiatement mis sur la voie, et là il y a tout un processus de retour en arrière, enfin, que les musiciens connaissent bien sous le mot de mouvement rétrograde, enfin, etc., ou même de récurrence, qui est beaucoup moins joli. Voilà, et puis enfin, bien des choses qui me sont personnelles.
Avant de vous quitter, Henri Dutilleux, si quelqu'un venait sonner à votre porte, si ce quelqu'un était un jeune musicien, et si ce quelqu'un vous posait certaines questions, c'est-à-dire, que dois-je faire ? Dans l'absolu, qu'est-ce que vous pourriez lui répondre ? Car en fin de compte, ce quelqu'un serait très jeune, viendrait vers Henri Dutilleux, musicien français, très important en ce moment, à notre époque. Que pourriez-vous lui dire ?
C'est une question extrêmement difficile. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas, je voudrais d'abord lui parler. J'aimerais lui parler, j'aimerais savoir ce qu'il aime, j'aimerais connaître ce qu'il a pu écrire, parce que si j'ai bien compris, il s'agit d'un compositeur. Et c'est seulement après l'avoir un peu sondé, après avoir connu ce qu'il peut faire et lui avoir parlé, que je pourrais lui donner un avis, il me semble. Et surtout, je lui dirais, voyez d'autres musiciens que moi-même, se prenez des contacts de côté et d'autre. Mais au fond, ce musicien que vous évoquez, il est complètement anonyme. Après tout, qui est-il ?
Nous étions ce soir chez Henri Dutilleux, musicien français.
Diffusée le 25 août 1970 sur France Musique, cette émission était produite par François Serrette, témoin de ce temps et lui aussi compositeur. Cette archive est disponible à la réécoute et au podcast sur le site francemusique.fr à la page des trésors de France Musique. Merci à Jean-Pierre Collard qui était à la réalisation avec Swat Boukorsa à la prise de son en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.